بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc mon intervention se poursuit inshallah ta'ala par rapport à ce qu'on avait commencé hier, donc أصحاب العذار. Donc les personnes qui sont autorisées et qui sont excusées par rapport au jeûne, donc qui sont autorisées à manger durant les jours du jeûne du mois du Ramadan. Et donc le point que nous allons aborder, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, c'est sur le voyageur. Le voyageur. Donc avant d'aborder le point sur le voyageur, Inch'Allah Ta'ala, je reviens rapidement sur le cas du malade. J'ai quelques petites précisions, notamment médicales à apporter. J'ai pu avoir la chance d'échanger sur le sujet avec un médecin musulman qui a plus de 30 ans d'expérience. Donc sur la question justement des trois catégories de malades que nous avions vues hier. Et donc comme on l'avait précisé hier, les savants ont distingué trois catégories de malades. Par rapport à leur difficulté, à la difficulté du malade, par rapport aux jeunes, et également par rapport à l'impact sur la santé. Et le malade est de trois catégories. Donc la première catégorie, on l'avait expliqué, la maladie légère, donc pas de difficultés particulières ou supplémentaires par rapport à d'habitude concernant le jeûne, et pas d'impact sur la santé. Donc il n'y a pas de mashaqqa, il n'y a pas de darar sur la santé. Alors concernant cette première catégorie, donc effectivement, il doit jeûner. Donc il doit jeûner. Donc la question que j'ai posée effectivement au médecin, c'était concernant justement quel type de maladie, à titre d'exemple, hein, c'est uniquement à titre d'exemple, et je tiens à préciser ici également que yani, le médecin me l'a bien répété, et également je transmets l'information là-dessus, que yani, systématiquement il faut un avis médical pour pouvoir diagnostiquer une maladie. Donc il faut un avis médical pour pouvoir diagnostiquer une maladie, quand bien même légère soit-elle. Donc il faut absolument avoir un avis médical, et c'est ce qu'on avait expliqué la veille dans Ghalabatul Dhan, le fait de se baser sur sa propre expérience par rapport à la difficulté, mais sur l'impact sur la santé, il faut absolument consulter un médecin. Et donc, à titre d'exemple, concernant la maladie légère, qui n'est pas une excuse pour pouvoir manger, la maladie légère, donc il m'a donné comme exemple une rhinopharyngite. Donc une rhinopharyngite est un exemple de maladie qui ne permet pas justement de manger durant le jeûne. Donc ça, à nouveau, c'est à titre informatif. Après, si vous avez une rhinopharyngite, effectivement, il faut consulter le médecin pour voir réellement votre situation. Car seul votre médecin vous connaît mieux. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était la maladie intermédiaire. Et c'est à travers cette maladie intermédiaire que Ibn Qudama, rahmatullah alayh, nous donne une précision. Et donc c'est à partir de cette maladie-là, la maladie intermédiaire, qu'il est permis justement de manger. Il nous la définit de la manière suivante. Al-marad al-mubih lil-fitri huwa al-shadidu alladhi yazidu bis-sawm aw yakhsha tabatu'a bur'ihi. Alors il nous dit, Ibn Qudama ici, dans le Al-Mughni, nous dit la maladie pour laquelle il est autorisé de manger, c'est la maladie dont le jeûne est difficile et qui rend encore plus éprouvant et encore plus difficile donc le jeûne. Donc la difficulté du jeûne augmente. Et également la crainte de voir la guérison être ralentie. Donc ici, c'est les deux caractéristiques concernant la maladie intermédiaire. Le fait que le jeûne est de plus en plus difficile et le processus de guérison s'allonge. Et donc ici, il lui est conseillé à cette deuxième catégorie de manger et il lui est déconseillé de jeûner. J'ai posé comme question quel type d'exemple de maladie pouvait être concerné par cette catégorie. Donc le médecin m'a répondu effectivement qu'une angine ou une bronchite effectivement pouvait entrer dans ce cadre-là. À nouveau, je répète, yani, l'avis médical de votre propre médecin est essentiel là-dessus. Ensuite, troisième catégorie, la maladie grave et donc la difficulté du jeûne est très importante. Donc là, le malade, s'il jeûne, la difficulté est immense et il y a un impact grave sur la santé. Alors ici, clairement, il lui est interdit de jeûner. Pour cette troisième catégorie, il lui est interdit de jeûner, conformément au verset où Allah nous dit « Wa la taqtulu anfusakum » et ne tuez pas votre propre âme. Donc ici, il lui est interdit de jeûner. Et à nouveau, j'ai demandé quelques exemples de maladies, donc justement à ce médecin. Donc il m'a cité la fièvre. Il m'a cité également les calculs rénaux. Il m'a cité également, avec l'actualité, le Covid-19. Et effectivement, il m'a synthétisé en disant que toutes les maladies qui nécessitaient une hydratation, toutes les maladies qui nécessitaient une hydratation étaient concernées par cette dernière catégorie, car le fait de ne pas s'hydrater, ben, justement, ça pouvait provoquer donc des conséquences sur la santé. Hier, justement, quand j'avais abordé cette troisième catégorie, donc la maladie grave, j'avais donné l'exemple du diabétique. Et effectivement, le diabétique n'entre pas dans ce cadre-là, car les trois catégories que j'ai citées à l'instant, ce sont des maladies ponctuelles. Des maladies ponctuelles, et lorsque le malade guérit, il doit rattraper ses jours. Alors que le diabète est une maladie justement qui est pérenne dans le temps et qui dure et qui n'a pas de guérison. Donc en fin de compte, le diabète est plutôt dans la catégorie du malade dont la guérison n'est pas espérée et donc il est dans la catégorie de la personne âgée. Al-shuyukh, al-kabir, ou al-mar'a al-ajouz. Donc ce qu'on avait abordé hier. Et donc pour le diabète ou pour le diabétique, il va devoir justement donner et nourrir plutôt afwan, nourrir des pauvres. Plutôt que de rattraper, il est impossible pour lui de rattraper. Donc ça, c'était la première chose à dire par rapport au diabétique. Le médecin m'a apporté un éclaircissement par rapport au diabète en m'expliquant qu'effectivement, le diabète est de trois catégories. De trois catégories. Et il m'a expliqué que sur les trois catégories, donc il y en a deux, donc le type 1 et le type 2 déséquilibré. Donc c'est l'appellation qu'il m'a donnée. Donc le type 1 et le type 2. Pour eux, il est interdit clairement de jeûner. Il y a pas de, il dépend de l'insuline. Donc souvent, ce sont des personnes qui utilisent l'insuline, d'accord? Quant au type 2, donc le type 1 et le type 2 déséquilibré, ça c'est clairement interdit. Quant au type 2, tout simplement, c'est un diabète de type gras. Et apparemment, il est conseillé pour ce type de diabète de jeûner. Subhanallah, donc j'étais très étonné. Donc il lui est conseillé de jeûner, car effectivement, c'est un diabète qui est lié à l'âge, hein, à la cinquantaine, et qui est lié justement au surpoids et au gras. Donc le fait de jeûner est un bienfait pour lui. Donc à nouveau, donc je vous renvoie vers votre médecin pour justement confirmer toutes ces informations. Donc là, c'est un avis médical que j'ai eu par un médecin qui a plus de 30 ans d'expérience et que c'est un musulman également. Il en a profité pour me donner quelques bienfaits du jeûne sur la santé. Je vous en cite trois, ça parle rapidement, donc j'en profite, hein, sur le côté médical. Le premier bienfait, c'est que, subhanallah, le jeûne stimule les défenses immunitaires et renforce le corps pour combattre justement les maladies. Et plus le jeûne dure, et mieux c'est pour le corps. Plus il est répété. Et donc, ici, subhanallah, effectivement, on s'aperçoit que dans l'actualité, yani, c'est top. C'est-à-dire qu'on pense même peut-être que Allah, même le gouvernement va peut-être même annoncer à toute la population de jeûner avec les musulmans. Donc ça, c'était le premier bienfait, stimuler les défenses immunitaires. Le deuxième bienfait, c'est que le jeûne, c'est un antioxydant. C'est-à-dire qu'il élimine, donc le corps élimine automatiquement les déchets cellulaires, donc tous les déchets liés à l'alimentation, donc sont éliminés justement par le corps du fait du jeûne. Et dernier élément, c'est que le fait que le jeûne est très bon au niveau cardiaque, car justement il permet une certaine longévité au niveau du cœur. Donc subhanallah, il fortifie le cœur, subhanallah. Le jeûne permet justement de fortifier le cœur et d'augmenter la longévité du cœur, subhanallah. Donc voilà concernant rapidement la maladie et le jeûne. Donc c'était juste un complément par rapport à ce que j'avais abordé hier, notamment sur l'exemple que j'avais donné concernant le diabète. À présent, on démarre sur le voyageur. Donc le voyageur. Donc comme j'avais expliqué en introduction la dernière fois, donc que ce soit le malade, la personne âgée ou le voyageur ou la femme enceinte ou la personne allaitante, ils sont autorisés à manger durant les journées du Ramadan. Parce que justement, ils ne répondent pas à une des conditions. Ici, le voyageur ne répond pas à la condition de l'iqama, donc le statut de résident. Et donc, il lui est permis, donc au voyageur, de manger conformément au verset وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc, c'est exactement le même verset que pour le malade, sauf qu'il s'agit ici du voyageur. Donc, là commence par le malade et ensuite il aborde le voyageur. Et donc quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc ici, les savants sont unanimes pour dire qu'il lui est autorisé, il est autorisé de manger pour le voyageur. Et s'il souhaite jeûner, malgré ça, son jeûne est quand même valable. Et ceci, effectivement, c'est l'avis de la écrasante majorité des savants. Uniquement une école de pensée, donc l'école de pensée littéraliste, qui justement a rendu le fait de manger obligatoire en se basant sur le même verset, sauf que eux n'ont pas interprété le verset comme l'a fait l'écrasante majorité des savants. Ils se sont basés sur le verset de manière littéraliste en disant donc quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner. Donc il devra jeûner un nombre égal d'autres jours. C'est-à-dire que automatiquement, s'il est considéré comme malade ou en voyage, automatiquement il va devoir rattraper. Donc ça c'est la vision de l'école littéraliste. Bien évidemment, c'est une vision très 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 minoritaire et l'avis est très faible. Donc ici, donc la majorité des savants justement ont interprété le verset en expliquant man kana maridan aw ala safar, celui qui est malade ou en voyage et qu'il a mangé, donc la condition de manger ici doit être présente, alors à ce moment-là, il pourra rattraper d'autres jours, il devra rattraper d'autres jours à un autre moment après le mois du Ramadan. Donc ça, c'est concernant le statut du voyageur et concernant le jeûne. L'autre question à aborder, c'est concernant al-afdaliya. Donc quel est le mieux? Quel est le mieux entre le fait de jeûner ou manger? Donc on a vu qu'il était permis aux voyageurs de jeûner et de manger ou de manger. Et donc quel est le mieux en fin de compte? Les savants divergent là-dessus. Et donc il y a trois grandes catégories, trois grands avis là-dessus. Le premier avis, c'est qu'il est conseillé de jeûner. Deuxième avis, c'est qu'il est conseillé de manger. Et le dernier avis, c'est qu'il est interdit de jeûner. Je vais commencer par le dernier avis qui est très simple, hein, interdit de jeûner. Donc comme au même titre que pour le malade, lorsque le jeûne va engendrer des problèmes de santé graves ou impacter la vie de la personne, à ce moment-là, la personne il lui est interdit de jeûner. Voilà, anfusakum. Le même verset qu'on a utilisé pour la maladie, il est utilisé également ici pour le voyageur. Il nous reste ici le groupe de savants donc, qui nous disent qu'effectivement, il est conseillé de jeûner en voyage. Donc le voyageur, pour lui, il est conseillé de jeûner. Donc ça, c'est le mieux pour eux. Selon eux, donc il est mieux de jeûner. Et ici, ça, c'est l'avis de l'école malikite, également l'école shafi'ite, et également l'école hanbalite. Hanafite. Donc malikite, shafi'ite et hanafite. Et ici, ils considèrent que de manière générale, il est conseillé donc, de jeûner en voyage pour celui, donc il y a un cas de figure, hein, pour celui pour qui le jeûne n'est pas difficile et ne l'empêche pas d'accomplir des bonnes actions, comme le fait d'aider des personnes de son entourage, comme le fait d'assister d'autres personnes, de les aider, etc. Donc pour eux, dès le moment où l'individu, le jeûne n'est pas difficile pour lui, en même temps il peut accomplir des actions à côté, alhamdoulilah, il lui est conseillé de jeûner. Et ils ont différents arguments qu'ils apportent ici, notamment le verset. Dans le sens du jeûne, hein, bien évidemment, donc dans le même verset qui parle du jeûne, où Allah Ta'ala nous dit wa anta soumou khayra lakum. Wa anta soumou khayra lakum. Ce verset, comme on l'avait expliqué, comme vous l'avez déjà vu dans les dernières interventions, a été révélé lorsque le jeûne n'était pas encore obligatoire et que la communauté musulmane avait le choix entre manger ou jeûner ou manger. S'il mangeait, il devait nourrir des pauvres. Et à la fin de ce verset, qui nous explique que le jeûne n'était pas encore obligatoire, Allah Ta'ala donne la préférence justement au jeûne en disant wa anta sawmu khayra lakum. Et donc les savants utilisent également ce verset pour dire que pour le voyageur, il est mieux pour lui de jeûner, comme l'a demandé Allah Ta'ala, comme Allah Ta'ala a donné la préférence au jeûne lorsqu'il n'était pas encore obligatoire. L'autre argument ici, soulevé par ceux qui disent qu'il est mieux de jeûner, c'est le hadith de Abu Darda, rapporté par le Bukhari, donc recueilli par le Bukhari ici, dans lequel le prophète sallam nous dit, donc Abu Darda nous dit, Kharajna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi fi yawmin harin hatta yada'u ar-rajulu yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har wa ma fina sa'imun illa ma kana min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ibn rawaha. Donc ici le hadith nous explique clairement que Abu Darda, alors qu'il était en voyage sous un jour très très chaud, jusqu'à ce que l'individu mette sa main au-dessus de sa tête parce qu'il fait tellement chaud qu'il se couvre avec sa main, tellement il fait chaud. Et il n'y avait pas de jeûneur parmi nous, si ce n'était le prophète sallam et un compagnon qui s'appelait Ibn Rawaha. Ibn Rawaha. Et donc ici, les savants nous disent que ces deux arguments principaux nous mettent en avant le fait qu'il est conseillé de jeûner. Et les savants nous disent également qu'en particulier, dans deux situations principales, le musulman, il lui est conseillé de jeûner et de ne pas reporter son jeûne à plus tard. Parmi ces situations, c'est si le voyageur risque d'avoir des difficultés à rattraper son jeûne. Donc s'il risque d'avoir des difficultés à rattraper son jeûne, de par ses occupations qui vont arriver, qui vont être très très nombreuses, ou tout simplement par paresse. Car le fait de voir tout le monde manger après le jeûne, donc après le ramadan, une fois que le ramadan est passé, tout le monde va retrouver ses habitudes de consommer, etc. Le fait que la personne se retrouve seule à jeûner, peut-être que ça va être difficile pour elle. Et auquel cas, bah, autant qu'elle jeûne en même temps que tout le monde durant le mois du ramadan, en tout cas ici pour le voyageur. L'autre situation, c'est si le voyageur travaille dans un métier qui est constamment lié au voyage et au transport. Donc les pilotes d'avion, les chauffeurs de taxi non trajet, les chauffeurs de poids lourds, etc. Donc tous ces types de métiers qui sont liés au voyage et au transport, il aurait conseillé également de jeûner, même s'ils sont en état de voyageur, car ils le seront également après le ramadan. Donc autant jeûner avec tout le monde également. Donc ça principalement, c'est l'avis de ceux qui considèrent qu'effectivement, il est mieux de jeûner pour le voyageur. Ceux qui considèrent qu'il est mieux de manger pour le voyageur. Donc le voyageur, il est mieux pour lui de manger. Donc ici, c'est l'avis de l'imam Ahmed, de l'Aouzaï Kazalik et de Ishaq Kazalik. Donc ici, ces savants nous disent qu'il est mieux de manger pour le voyageur, pour celui pour qui le jeûne est difficile. Pour celui pour qui le jeûne est difficile et qui le réduit physiquement, au point de ne pas pouvoir accomplir de bonnes actions, comme le fait de s'assumer soi-même et également d'aider d'autres personnes. Et ici, donc, cette école, ces différentes écoles, ces différents savants, donc, se basent sur différents arguments. Parmi les arguments qu'ils citent, le premier argument, le fait que l'iftar, le fait de manger, est une permission divine. Et ici, il nous rapporte le hadith d'Ibn Abbas, recueilli par Al-Bazzar, et donc authentifié par l'Albani, rahmatullah, dans lequel le prophète sallam nous dit « Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yuhibbu an tu'ta azaimuh » Donc Allah Ta'ala, certes Allah aime que l'on profite de ses facilités comme il aime que l'on pratique ce qu'il a imposé. Et dans une autre versée, dans une autre version, afwan, kama yukrahu aw kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuh. Et donc, il aime, certes, Allah aime qu'on profite de ses facilités, comme il déteste que l'on pratique, comme il aime, afwan, comme il aime que l'on délaisse ce qu'il a interdit. Comme il aime que l'on délaisse ce qu'il a interdit. Donc ici, clairement, Allah Ta'ala aime de son serviteur qu'il profite de ses facilités, comme yani, il pratique ce qu'il a imposé. Donc ça, c'est le premier argument, le fait que c'est une permission divine. Deuxième argument, c'est donc le fait que le jeûne est une difficulté. Al-mashaqqa. Donc cet élément-là revient très souvent. Al-mashaqqa, donc la difficulté. Et ici, très clairement, le hadith de Jabir, dans lequel le prophète en sallam, alors qu'ils sont en voyage, donc ils vont voir donc un homme donc qui va être entouré de personnes, entouré, et tout le monde va commencer à s'attrouper autour de lui. Le prophète va poser la question, qu'est-ce qu'il se passe? Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? On lui dira, c'est un jeûneur. Qalu sa'imun. Faqala, laysa min al-birri as-sawm fi as-safar. Le prophète, face à la vue de cette situation, il dira en parlant de l'individu qui était au sol et qui était entouré de tout le monde, ce n'est pas un acte de bonté pieuse que de jeûner durant le voyage. Donc la personne qui a jeûné à ce moment-là était blâmée par le prophète, car justement, elle s'est mise en difficulté. Elle s'est mise en difficulté. Troisième argument, c'est le fait que dans un hadith rapporté, authentifié à Afwan par Ahmed Shakir, dans lequel le prophète sallam aurait dit « Man aftara fa hasan, wa man sama fala junaha alayh celui qui mange est bon. Celui qui mange est bon. Et celui qui jeûne, il n'y a pas de mal en soi. Donc ici, le hadith nous montre très clairement que fahasan, donc le caractère bon, est meilleur que la formule il n'y a pas de mal en soi. Donc ici, man aftara fahasan, donc celui qui mange, c'est meilleur. Donc c'est meilleur que le fait de jeûner. Également, pour ceux qui considèrent qu'il est mieux de manger, lorsqu'on voyage en groupe, la nécessité de participer aux tâches communes. Donc le fait que lorsqu'on voyage en groupe, il est bien de manger pour pouvoir participer aux tâches communes. Et ici un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu qui nous dit: Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa minna as-sa'im wa minna al-muftir. قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم الأجر. Ici, Anas ibn Malik, رضي الله عنه, nous dit: nous étions donc en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi nous, il y avait des jeûneurs, d'autres qui mangeaient. Nous nous sommes arrêtés dans une station, il faisait très très chaud. Beaucoup d'entre nous se couvraient avec leur tissu, d'autres se cachaient avec leurs mains contre le soleil. Ceux qui jeûnaient se sont effondrés, et ceux qui mangeaient, justement, ont commencé à mettre en place les tentes et à abreuver les bêtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant la situation, a dit: ceux qui ont mangé se sont emparés de la récompense. Ceux qui ont mangé se sont emparés de la récompense. Et si les savants nous disent qu'ils ont eu plus de récompenses que les jeûneurs, tout simplement par la participation aux tâches qu'ils ont faites, et surtout par le fait qu'ils étaient au service de ceux qui jeûnaient. Donc ils ont également bénéficié de la récompense du jeûne, de ceux qui jeûnaient. Toujours concernant la situation de groupe en voyage, donc ici, il y a donc un élément supplémentaire, un argument supplémentaire pour le fait de manger en voyage, quand on est en groupe, c'est le fait de préserver l'unité. Le fait de préserver l'unité et d'éviter toute incompréhension, notamment dans la répartition des dépenses et de l'organisation du voyage. L'autre élément, toujours lorsqu'on voyage en groupe, c'est le fait de préserver sa propre âme, de l'ostentation. Et ici, Ibn Hajar nous rapporte une parole d'Ibn Omar, extraordinaire, dans laquelle il nous explique qu'effectivement le jeûneur peut être exposé à l'ostentation. Le fait qu'il est seul à jeûner, tout le monde va l'observer, tout le monde va faire attention à lui, tout le monde va lui donner à boire, tout le monde va vouloir y aller prendre soin de lui, etc., va faire attention à lui. Et donc ici, c'est en sorte, à un moment donné, une certaine ostentation. L'individu va être pris par l'ostentation, le fait de voir que tout le monde s'occupe de lui parce que tout le monde sait que lui jeûne. Donc effectivement, ici, Ibn Hajar nous dit l'individu doit faire attention également à sa propre âme lorsqu'il voyage en groupe et lorsqu'il souhaite jeûner. Et également, le hadith qui nous montre l'importance du groupe. Inna Allah ma'a al-jama'a wa inna ash-shaytana ma'a man faraqa al-jama'a yarkud. Donc, hadith rapporté par Muslim, authentifié par l'Albani rahmatullah alayhi, qui nous dit: Allah est avec le groupe et Shaytan se précipite vers celui qui va à l'encontre du groupe. Également, parmi les arguments qui sont utilisés et les situations qui sont mises en avant pour pouvoir expliquer que le voyageur doit manger, il est mieux pour lui qu'il mange pendant le jour du Ramadan, c'est ce que nous rapporte Ibn Kathir dans son tafsir, et qui nous dit que le fait de manger peut avoir un effet pédagogique et éducatif auprès des personnes qui sont dans notre entourage, notamment la personne qui est leader, qui est écouté, qui est suivi pour sa piété, sa sagesse, son savoir. À ce moment-là, cette personne, il lui est demandé de manger si elle s'aperçoit effectivement que dans son entourage, certaines personnes ne sont pas convaincues de la permission de manger. À ce moment-là, il lui est demandé à lui, en tant qu'autorité, en tant que représentant, en tant que personne leader qui est suivi pour son savoir, pour sa sagesse, de montrer l'exemple, de montrer la sunna du prophète sallam, de manière à ce que cette sunna ne soit pas perdue. Car si des personnes pensent justement qu'ils ne sont pas convaincus de la permission de manger, alors il faut leur montrer effectivement que c'est une permission divine et que justement c'est une sunna prophétique et qu'il faut la pratiquer. Donc ça, c'est dans le but pédagogique et éducatif concernant le fait de manger durant le mois du Ramadan pour le voyageur. Et le dernier point, inshallah ta'ala, Donc ça concerne le fait que dans un groupe, toujours dans le groupe, hein, effectivement, donc le fait que l'amir décide que tout le monde mange. Tout le monde mange, donc nous sommes en voyage et l'amir décide de manger et il demande à tout le monde de manger également. Donc pour éviter effectivement tous les désagréments qu'on a cités juste avant. Et donc ici on a un hadith apporté par Jabir qui nous dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم وسار الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. Donc le hadith de Jabir dans lequel le Prophète nous dit nous sommes sortis le jour de l'année del Fath, donc pour justement aller conquérir la Mecque, donc l'année de la victoire. Et donc nous sommes arrivés donc à une station qui s'appelle Qura el Ghamim, donc à une soixantaine de kilomètres de Mecca. Et donc les compagnons étaient parmi le Prophète sallam, étaient autour de lui. Et le Prophète sallam a demandé d'apporter donc un verre d'eau, et il a levé le verre et il a commencé à boire et les gens l'observaient. Et lorsque il a bu le verre d'eau, on lui a dit certaines personnes jeûnent encore. Et là il a dit ceux-là sont des désobéissants. Alors ici les savants nous expliquent que ils ont désobéi effectivement à l'ordre du prophète sallam, et également le fait que à travers le hadith on voit qu'ils partent vers la Mecque et pour la libération de la Mecque, donc ils vont faire face justement à l'ennemi sûrement, et donc ils vont être mobilisés au niveau physique, et donc le fait de manger était une manière de les renforcer également. Donc ils ont désobéi et ils ont mis en danger effectivement l'ensemble du convoi, l'ensemble du convoi. Donc ici par rapport à tous ces éléments qu'on a cités, on va donner juste une conclusion très rapide. Et ici, la conclusion elle est très très simple. Et ici, c'est l'avis de Omar ibn Abdelaziz, donc le grand calife bien guidé, qui nous dit tout simplement qu'en fin de compte, yani, le musulman, par rapport à tous les éléments qu'on a cités, il choisira la chose la plus facile pour lui. Car le prophète sallam, comme il nous est rapporté également dans le Bukhari, selon Aïcha radiallahu anha, ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم. Donc le prophète sallam, lorsqu'il était confronté à deux choses équivalentes au niveau religieuse, il choisissait la plus facile, tant que cette chose, la chose qu'il a choisie, ne provoque pas un péché. Donc effectivement, Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu wa rahmatullah alayhi, nous dit clairement qu'il faut choisir pour le voyageur, il choisira donc de jeûner ou de manger en fonction de la situation qui est la plus simple pour lui. Également, on le voit dans le hadith de Hamza al-Aslami, donc le fameux compagnon qui a demandé au Prophète sallam de pouvoir jeûner, car c'était un compagnon qui jeûnait beaucoup. Et le Prophète sallam lui a répondu « In shi'ta fa soum wa in shi'ta fa aftir ». Si tu le souhaites, tu jeûnes, et si tu le souhaites également, tu peux manger. Donc à toi le choix. Et dernier point également ici à citer, concernant cet avis de Omar ibn Abdelaziz, c'est le fait que l'individu jeûne ou pas, ceux qui jeûnent ne doivent pas blâmer ceux qui mangent, et ceux qui mangent ne doivent pas blâmer ceux qui jeûnent. Et ici c'est une parole d'Abu Sa'id al-Khudri, apportée par le Bukhari, qui raconte lui-même, en disant « Falam ya'ibus sa'imu ala al-muftir, wala al-muftiru ala al-sa'im ». Et le jeûneur ne blâmait pas ceux qui mangeaient, et ceux qui mangeaient ne blâmaient pas ceux qui jeûnaient lorsqu'ils étaient en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum pour votre attention. On verra demain, inshallah ta'ala, la suite du statut du voyageur, notamment sur le à quel moment démarre la permission de manger, s'il décide de manger, et à quel moment se termine cette permission de manger lorsqu'il arrive à destination. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم